Mortel Oiseteur.
Ah bref, vous ne croyez plus au lendemain qui chante, au bonheur universel.
La France va mal. La France va mal, elle continue à aller mal, pas mal, elle continue à aller mal, pas mal, elle continue à aller mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, elle va mal, elle continue à aller mal.
T'avais jamais entendu de rap français, Youssoupha, tous les quartiers, tous les bleds, la révolution dans la tête, c'était calmement.
Rap, littérature, révolution.
Donc, aujourd'hui, Montaigne Oiseteug, rap, littérature et révolution va s'intéresser de près à une nouvelle parution tout à fait extraordinaire de Bertrand Fibien. Bertrand Fibien, il a déjà fait un Montaigne Oiseteug, hein, il était magnifique, il était brillant sur le sujet de la littérature et des grenouilles. Et aujourd'hui, Monsieur Bertrand Fibien vient nous présenter son nouveau livre, hein, sujet encore une fois très sérieux, sur Rimbaud, Rimbaud le poète. Son nouveau livre s'appelle donc Rimbaud Gabonito, oui, en référence Rimbaud et le football. Hein, il lit dans une lecture très fine des poèmes de Rimbaud, Rimbaud et le football, et Rimbaud Gabonito, c'est donc une référence à Joe Gabonito. Qui veut dire en brésilien le beau jeu, évoquant le football, hein, ce football artistique. Et il va nous montrer aujourd'hui pourquoi Rimbaud fait un peu de la poésie footballistique. Voilà, ce sera le thème d'aujourd'hui. Bonjour Monsieur Bertrand Fibien.
Bonjour Monsieur Teug et bonjour à tous.
Donc nous vous accueillons aujourd'hui pour un événement considérablement majeur. L'apparition de votre livre Rimbaud Gabonito. Et aujourd'hui, ce que vous allez faire, en fait, ce à quoi vous allez vous livrer, je crois, hein, si j'ai bien compris notre accord, vous allez vous livrer à une analyse du célébrissime poème de Rimbaud, Le Dormeur du Val.
C'est tout à fait ça.
Tout à fait exact. Et donc, alors voilà, là, j'imagine que les oreilles de nos auditeurs s'ouvrent grand, hein, et tous ces auditeurs qui vont passer le bac, peut-être cette année, vont, d'une manière ou d'une autre, avoir affaire au Dormeur du Val, hein, le poème célébrissime de Rimbaud. Donc, je leur prescris, évidemment, en tant comme une ordonnance médicale, cette émission de Montaigne Oiseteug. Nous allons expliquer en long, en large, en travers, et surtout révéler le vrai sens du Dormeur du Val de Rimbaud. Donc, voilà, ce poème est souvent travaillé à l'école. Sauf qu'aujourd'hui, Monsieur Fibien, dites-moi si je me trompe, l'école est en quelque sorte infestée par le capitalisme, non ? Et oui. Malgré la volonté des enseignants qui font tout pour résister, mais le capitalisme est plus fort, comme bien souvent, il est plus fort que tout, sauf que Radio Canus, c'est ce que nous allons montrer aussi aujourd'hui.
En effet, le capitalisme étant très sinueux, il s'insère partout, et malgré la volonté révolutionnaire de tous les profs, nous n'arrivons pas encore à le faire sortir du système éducatif.
Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas encore aujourd'hui à faire une interprétation correcte du Dormeur du Val. C'est exactement. Aussi pour ça, parce que l'interprétation que nous avons aujourd'hui est édulcorée, hein, elle ne fait qu'état de simplement un mec qui est un peu endormi là comme ça dans un val et qui en fait est un soldat mort à la guerre de 70, donc
oui, c'est assez convenu.
Voilà, et justement la force du capitalisme, c'est d'atténuer le pouvoir complètement révolutionnaire de la littérature.
Ouais, tout à fait.
Donc peut-être que, avant de vous... Si, je vais d'abord vous parler un peu de Rimbaud. Hein. Rimbaud, poète maudit s'il en est, puisqu'il meurt à l'âge d'une vingtaine d'années, c'est ça ? Ou trentaine d'années ?
À peu près dans ces eaux-là, oui.
Le grand spécialiste de Rimbaud confirme évidemment mon affirmation très précise. Et que, voilà, c'est la figure de l'éternel jeune, hein, ce Rimbaud qui révolutionne la poésie. Et il faut savoir d'abord que l'existence de Rimbaud, grande révélation aujourd'hui à Montaigne Oiseteug, n'est pas du tout attestée.
Eh oui.
Et oui.
Tout est incertain dans la vie.
Tout est... Rien n'est sûr, tout est incertain. L'existence de Rimbaud n'est pas attestée, hein. Et sachez que s'il avait existé, hein, s'il a existé, Rimbaud a sûrement été homosexuel. Voilà. Et ça, c'est très important. On y reviendra, hein, pour comprendre son attrait pour le football, peut-être, et pour les beaux corps, et entre autres aussi, voilà, l'analyse de ses poèmes. Donc voilà, pour Rimbaud, en passant très vite. Et on va écouter maintenant une lecture, en fait, d'Yves Montand qui lit ou qui chante Le Dormeur du Val. Et après, on fera quelques commentaires, hein, sur cette interprétation d'Yves Montand.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il était tendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut, les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Il a deux trous rouges au côté droit.
Alors, monsieur Bertrand Fibien, que pensez de cette interprétation d'Yves Montand ?
Alors, je ne peux que soumettre quelques réserves.
Oui, dire que c'est clairement de la merde.
Voilà.
Entre autres.
C'est très, très mielleux. On dirait que c'est sorti de Mary Poppins, c'est vrai, c'est une comédie musicale.
Oui. Digne de Section d'Assaut, comme on le verra plus tard sur
cette
chanson.
Oui, oui, tout à fait. Et oui, donc tout ce pathos, ces effets instrumentaux pour essayer d'accélérer une sorte de chute tragique, triste et tout à fait ridicule.
Mais oui, exactement, hein, parce qu'on le répète, hein, pour nos auditeurs qui vont passer le bac, hein, l'histoire du dormeur du Val, c'est en gros un mec, on croit qu'il dort dans un Val, mais en fait, il est mort. Donc voilà, hein, tous les faits dramatiques se ressentent dans la voix de Yves Montand. Cette interprétation ne signifie rien, hein, elle est complètement absurde, hein. On se demande pourquoi il a fait ça, il avait peut-être la flemme d'écrire un texte, hein, Yves Montand, on sait pas trop. Donc il a repris un petit poème comme ça, là, allez, dormeur du Val, chic chic, c'était peut-être le seul qui connaissait, bon, j'arrête de clasher Yves Montand. Donc, on va peut-être passer maintenant aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses, monsieur Fibien. Avec l'interprétation même du texte. Hein. Tout d'abord, le titre. Le titre et le sens caché du titre, s'il vous plaît, me suffit bien.
Oui, alors le Dormeur du Val, donc titre bien connu, est en fait une signification cachée. Car nous savons que les poètes aiment bien jouer avec les...
Avec les sens.
Avec les sens, exactement, et avec particulièrement l'anagramme. Donc il faut voir dans ce titre, Le Dormeur du Val, un anagramme qui serait en fait le laveur du drum.
Ouh, alors ça commence très fort, cette interprétation est absolument révolutionnaire, je dois dire, monsieur Fibien. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, le laveur du drum, hein, le lavant, on comprend bien, c'est peut-être un mec qui veut laver. Et le drum,
alors, qu'est-ce que le drum? Le drum est en fait la drôme.
Ah, la drôme, le département.
Oui, tout à fait.
Et le fleuve.
Et le fleuve aussi, les deux sont inextricables.
Et oui, car la poésie tue toujours sur les sens multiples des mots.
Tout à fait. Et donc, seulement Arthur Rimbaud, alors soit par ignorance, soit par écart poétique, a transformé la drôme en le drôme.
Sûrement par écart poétique. Ou ne doit-on pas voir dans cette masculinisation de la drôme une interprétation homosexuelle?
Je laisse cette interprétation libre à toute écoute.
Oui. Bon, vous n'êtes pas certain de ça, ce n'est pas très pertinent. Non. Vous ne pensez pas que ce soit très pertinent.
Il y a mieux, quoi.
D'accord, ok. Donc, voilà, le laveur du drôme, mais bon, ça n'aurait qu'un sens si on dit oui, c'est le laveur du drôme, et alors?
Eh bien, en fait, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est le laveur du drôme? Eh bien, tout d'abord que nous allons montrer, tout d'abord que dans la première strophe, le dormeur du Val, en fait, laveur du drôme, se trouve dans une laverie. Alors, qu'est-ce qui nous permet de...
Une laverie, non mais attendez, je vous arrête tout de suite, là, tout de suite, me suffit bien. Une laverie comme on en voit aujourd'hui, en l'an 2015, une laverie avec des machines à laver.
Et tout à fait, exactement les mêmes laveries, tout aussi
mais
modernes.
Le poème de Rimbaud a quand même été écrit en 1870.
Oui, mais c'est ignorer les pouvoirs extralucides d'Arthur Rimbaud qui était capable de voir dans l'avenir.
Arthur Rimbaud, vous verrez dans l'avenir, c'est pour ça qu'il aurait écrit les Illuminations.
Eh oui, c'est un Illuminati.
Oh, que de révélations en ce début d'émission. Arthur Rimbaud aurait vu dans le futur une laverie.
Tout à fait.
D'accord. Avec donc, un laveur dedans.
Oui. Donc, première strophe, donc description de la laverie. Donc c'est un trou de verdure où chante une rivière. Mmh. Un trou où chante une rivière. Qu'est-ce qu'un trou où chante une rivière? Donc c'est un trou où de l'eau fait du bruit. Mmh. Nous reconnaissons là aisément le tambour de la machine à laver.
Bien sûr, bien sûr.
Où l'eau, en tourbillonnant, fait du bruit.
Comment n'y pas penser?
Pourquoi un trou de verdure? Eh bien parce que le laveur du drôme est en fait un footballeur. Et donc il sort d'un match de foot.
Là, 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 là. Mais comment savez-vous que c'est un footballeur?
Alors nous le verrons plus tard. D'abord, expliquons que la verdure, c'est
le suspense.
Tout à fait. La verdure fait référence donc à l'herbe qui a entaché
le maillot de foot
et le maillot du.
C'est-à-dire qu'en fait, il aurait mis ses habits pleins d'herbe dans une machine à laver. Du coup, la machine à laver serait devenue un trou de verdure tellement l'herbe aurait couvert.
C'est tout à fait ça.
D'accord. Donc nous pouvons sans doute supposer que c'est un joueur de niveau faible, de niveau district, quelque chose comme ça, puisqu'il est lui-même en train de laver son maillot. Nous n'avons pas affaire à un professionnel.
Ou alors un professionnel humble, comme peut-être il en existe.
Peut-être, peut-être.
Donc, pour poursuivre, cette métaphore de la laverie se retrouve avec la mousse, bien entendu, un petit val qui mousse de rayons, le petit val étant la laverie, et qui mousse, et c'est la mousse de la lessive qui fait son action lavante. Donc, la laverie, donc la machine à laver, donc un trou où l'eau fait du bruit, mais l'eau aussi est en mouvement. Donc, comme on voit, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Donc ici, nous pouvons voir le mouvement accrochant follement aux herbes des haillons, où les vêtements ici semblent tourbillonner dans la lessive et la lessive donc s'accroche follement aux taches d'herbe pour les extraire des vêtements et ainsi les rendre.
Et vous expliquez d'ailleurs dans votre livre Rimbaud Gabonito que cette action de la lessive sur le vêtement est directement inspirée à Rimbaud d'une publicité des années 80, hein, qu'il a entrevue encore une fois dans ses visions extralucides, une publicité pour la lessive Homo.
Tout à fait.
Je fais un nœud.
Un nœud?
c'est comme ça qu'on lave maintenant?
Oui, c'est pour te prouver ce que j'arrive à faire avec Homo.
Eh ben, on va voir, nous. Hmm? Oh, bah, ça alors, c'est propre.
Maman, t'as gagné!
Tu nous étonneras toujours, toi.
C'est pas difficile avec Homo.
Pour tout textile, Homo est là, la saleté s'en va.
Ouh, oui, bien sûr, là on voit très bien que la publicité Homo pour la lessive colle très bien avec cette interprétation du dormeur du Val, hein. Un combat en fait entre la lessive et la saleté se joue au sein du tambour même de la machine à laver, dans la laverie.
Et tout à fait, donc l'action de la lessive sur la saleté est présentée comme un combat. Donc où la lessive où le propre est donc victorieux contre le sale, comme nous le montre la métaphore solaire, où le soleil, la montagne fière, lui, donc où on sait très bien que la propreté est généralement associée à la lumière, donc d'un blanc éclatant. Et d'ailleurs, le haillon d'argent, en contact de la lessive, le haillon devient d'argent, donc il est comme sublimé par la lessive, ce qui montre bien le pouvoir sublimant de cette
lessive. En même temps, j'ai envie de dire, excusez-moi si je vous interromps, c'est le pouvoir de l'homo qui sublime le haillon. N'est-ce pas une propagande homosexuelle, une action d'un lobby gay?
Peut-être bien
vous
que
n'êtes pas
oui,
convaincu par mes interprétations.
Et peut-être bien que non. Disons que l'interprétation biographique a toujours ses déboires.
Mm-hmm, d'accord.
Mais donc, pour revenir sur cette idée de victoire de la lessive, nous devons évoquer cette montagne fière qui fait évidemment référence à la montagne Sainte-Victoire, représentée par Cézanne. D'ailleurs, la référence à Cézanne est très frappante au début du poème.
Là, je vous arrête tout de suite, encore une fois. Je me souviens de votre interprétation de Cézanne, vous allez nous la livrer, mais j'ai un bémol. Hein, j'ai un bémol, cette interprétation.
Nous verrons bien votre bémol. Donc, le poème commence par « c'est un trou de verdure ». Donc, « c'est » pour le premier vers et le deuxième vers étant accrochant. Donc, on entend bien ici le « c » puis le « a ». Donc, on entend ici le « Cézanne ».
Et oui, très bien, très très fort. Mais où est le « z » ce « z » si recherché, hein. Il n'y a aucun « z ». J'ai cherché, hein, j'ai analysé finement chacune des lettres de ce poème, il n'y a pas de Z. Comment vous débrouillez-vous?
Eh bien, je reconnais bien ici votre esprit étriqué qui ne vous accrochez qu'aux lettres, alors qu'il faut aussi faire attention au son. N'entendons pas ce Z dans le deuxième vers accrochant follement aux herbes des haillons. Le Z est ici présent, donc nous avons Cézanne.
Dans la liaison.
Eh oui.
Et c'est là que l'on trouve le Cézanne. Et d'ailleurs, la disposition typographique, le C, puis le Z, puis le A, fait une pyramide.
Et la pyramide des Illuminati.
Entre autres. Tout et nous étudions, d'ailleurs, ce sera une des grandes questions de notre analyse. Hein. Rambo est-il plutôt un reptilien ou un Illuminati, hein? C'est une grande question qu'on va se poser. On continue, je vous en prie, après m'avoir réduit au silence, hein, votre analyse.
Et donc, nous entendons bien le Cézanne, donc ils font bien référence ici à la montagne Sainte-Victoire, proprement dite. Donc, nous avons bien ici un combat qui se livre dans la première strophe entre la lessive et les taches. Et c'est bien entendu la lessive et la propreté qui l'emporte.
Mais c'est très très brillant, hein. C'est, voilà, ça mérite une petite musique.
Je reviens agile comme Bébéto. Get ma technique, je suis physique. Numéro 1 au classement des tchatcheurs. La division 1 ne me fait pas peur. Le Kaiser du rap, le roi, le pape mène l'attaque et les sponsors attaquent. On m'attaque et j'évite les tacles. C'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles. cible. Je me balade sur le terrain musical. Je tue au micro comme je joue dans la balle. Sur ta console, tu luttes à kick-off. Moi je marque des buts même à dinosaures. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui j'en veux comme Roumenigue. Je mouille mon maillot quand je suis au micro. C'est un Batman jam sur le beat. Enfin signé, prêté par la secte aux Virgin AC. Ma tchatche est brossée, tous mes mots sont cadrés. Même Mark Landers en tombe à la renverse. À l'aise dans mes copas, stylé en diadora. Je suis le prince du parc Guadala. On fait la hola pour Umbro Gineco. Et ouah, pour Cantona. Rescapé de la grande époque des verts. Je remonte le score quand ma clinique perd. Vainqueur de la coupe, des vainqueurs de coupe. Le lion indomptable a de la force dans ses shoots. J'ai le ballon d'or, le micro d'or, le soulier d'or et des disques d'or. Les hooligans sont Gan Morgan de moi. Et comme ils disent vive le roi.
C'est un monde sur le beat.
Sommet et F1 retransmet. La crise sera cardiaque dans les foyers français. C'est moi qui arrache la qualification. Je marque de la main et empoche le pognon.
Ce soir je vous mets de l'huile sur le feu.
Coup de sifflet final, pas de prolongation. J'ai mené le bal, repasse-toi mes actions. J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin. Je bois du cacolac, ça c'est Jean-Pierre Papin. Le foot c'est malsain comme la musique, y'a que des requins. Pas d'échange de maillot, tu pourrais prendre mon flow. C'est un passement de jambes sur le beat.
C'est la mise à l'amende sur Mountain Was a Thug. Mise à l'amende de tous les universitaires, de tous les analystes qui ont analysé jusqu'à nos jours Rimbaud et n'ont pas compris le sens caché, le sens footballistique du poème Le Dormeur du Val, hein, et sens footballistique qui est révélé par le grand Bertrand Fibien dans son livre Rimbaud Gabonito, excusez-moi, paru hier soir aux presses universitaires de Fès. Et donc, voilà, nous avons analysé jusqu'alors la première strophe de ce Dormeur du Val. Je vais récapituler un peu ce qu'a dit Monsieur Fibien. Monsieur Fibien nous a dit qu'il était question dans cette première strophe d'un joueur de foot, sans doute dans une laverie dans la Drôme, qui assiste au combat que se livrent sa lessive et les taches de son maillot de foot au sein du tambour de la machine. On comprend très bien dans cette première strophe que Rimbaud est du côté de la lessive. Sans doute une lessive homo, comme nous l'avons montré. Et il montrerait par là que homo lave le monde de ses souillures. Mais c'est une interprétation que M. Fibien a récusée et que donc je me dois de retirer. Donc nous allons désormais passer à la deuxième strophe, s'il vous plaît. Monsieur Fibien, avec cette question que je vais vous poser tout d'abord, et qui est, mais comment vous savez qu'on parle d'un joueur de foot, hein? Et il est où le joueur de foot là? Parce que machin Gabonito et tout, c'est bien beau, mais hein, c'est où?
Eh bien oui, il semble que dans la première strophe, le joueur de foot soit absent. Mais cependant, c'est une référence à Molière. En effet, comme dans Don Juan, le laveur, qui est ici un soldat, car le foot est vu comme un combat.
Oui, soldat, c'est le premier mot de la 7e strophe, non ?
Le deuxième.
Le deuxième.
Donc il est vu comme un soldat, il n'apparaît pas dès la première scène, donc c'est une allusion à Molière qui fait que qu'il n'apparaît que par la suite. Et donc ce soldat est un joueur de foot qui sort d'un match, c'est donc fatigué par l'effort.
Et pourquoi un joueur de foot, monsieur Fibien ?
Eh bien, patientez.
Excusez-moi.
Un joueur de foot, comme donc déjà, premières analyses, un joueur de foot, comme nous l'avons vu dans le trou de verdure, donc il faut expliquer cette herbe qu'il y a sur ses vêtements, donc ici expliqué donc par ce
match qu'il a sans doute
par
livré.
Ce match qu'il a livré. En plus, rappelons la forme du poème qui est un sonnet. Donc, qu'est-ce que l'on entend dans sonnet ? On entend le sonnet, le sot, la personne
bête,
stupide, bête, est né de la naissance. Donc, qu'est-ce qu'un footballeur si ce n'est un sonnet ?
Ah.
Un effet qui ne parviendra jamais dans sa vie à faire autre chose que jouer avec un ballon.
Ouh, mais c'est d'accord, c'est une attaque envers tous les footballeurs. Mais à qui vous rendez pourtant hommage dans votre livre ?
Bien sûr, car...
C'est une attraction-répulsion.
Tout à fait.
D'accord. Le sonnet, hein, et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai une, pour ma part, une deuxième analyse de ce sonnet, hein. Le sonnet, c'est aussi celui qui s'est fait sonner. À la fin du match, on va voir que le joueur de foot est très fatigué, et sans doute a-t-il été sonné par d'éventuels vouvouzéla de supporters qui encercleraient le terrain. Donc voilà.
Des vouvouzéla, d'ailleurs, que l'on entend sonner, elle également. Donc il faut encore une fois référence au mot sonner qui est d'une polysémie incroyable.
Oh oui, 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 que de richesse dans ce texte de Rimbaud.
Tout à fait. Donc, je me permets de revenir à cette analyse du soldat qui est donc joueur de foot qui sort d'un match et donc il est fatigué par l'effort du match mais aussi par la maladie, comme nous le verrons plus tard plus en détail. Donc fatigué, il s'endort. Donc comment savons-nous qu'il dort et qu'il est malade ? Donc déjà, nous voyons un soldat jeune, bouche ouverte. Pourquoi la bouche ouverte ? Eh bien, parce qu'il dort, et dans un sommeil profond, nous dormons souvent la bouche ouverte. D'autant plus qu'ici, étant enrhumé, il a le nez bouché, il ne peut pas respirer par le nez, et donc ne peut que dormir
bouche ouverte. Nous verrons plus tard de quoi vous déduisez cet enrhumement.
Oui. Ensuite, le frais cresson bleu sur lequel il se repose, donc qui lui fait office de coussin pour dormir, fait référence, bien entendu, à son maillot de foot, qui
maillot
serait
bleu
bien
évidemment.
Entendu, comme le maillot des... footballeurs français, qui auront quelque chose à voir dans ce poème eux aussi.
Et, suspense, que de suspense.
Enfin, la preuve véritablement qu'il dort et qu'il n'est pas mort, comme on a pu le croire, se retrouve dans le manuscrit. Car dans les...
Ouh, mais attendez, monsieur Fibien, quelle précision ! Vous avez même analysé le manuscrit de Rimbaud pour
et
pouvoir
oui,
nous
car...
livrer une analyse complète de ce poème.
Car j'ai pu noter une erreur des moines copistes qui ont recopié ce poème. En effet, après, donc au troisième vers du deuxième quatrain, donc et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort, point virgule. Mais en fait, il ne s'agit pas vraiment d'un point virgule, mais
les moines copistes étaient fatigués.
Deux points. Et donc, ces deux points nous permettent de dire que ce qui suit ce dort, deux points, est donc la description de son rêve. Donc, dort, il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Ici, c'est la description de son rêve. Et le rêve et l'aspect onirique est présent dans la synesthésie.
Vous employez des mots très savants, monsieur Fibien. Qu'est-ce qu'une synesthésie pour un humble thug comme moi qui ne connaît pas vraiment ?
Alors, pour expliquer la synesthésie, nous pouvons déjà partir de son étymologie. Synesthésia, donc qui veut dire sentir ensemble. Et donc nous avons en fait dans une synesthésie la confusion de plusieurs sens. Donc ici, la lumière, donc la vue, avec le toucher de la pluie sont mêlés dans la lumière pleut, donc ce qui nous donne une image parfaitement onirique et qui confirme cette analyse d'un rêve donc décrit par l'auteur.
Donc attendez, parce que vous allez un peu vite pour moi. Excusez-moi, mon cerveau est un peu lent, hein. Vous soumettez à l'analyse, voilà, votre analyse est la suivante. Ce qui suivrait ce d'or de première, qui entame le sixième vers du poème, ne serait pas un point virgule, mais un deux points.
Oui.
La suite serait donc le détail du rêve. Et ce qui accrédite votre interprétation, c'est que on est sans doute dans un rêve, puisque il y a confusion des sens.
C'est ça.
Puisque la lumière pleut. D'accord, d'accord.
Oui, donc d'ailleurs, nous nous demandions tout à l'heure si il était plus un Illuminati ou un reptilien, et si le lit vert et l'importance pour le vert que l'on voit dans la verdure nous fait penser peut-être aux reptiles, et donc nous faut pencher plus
sur la verdure, le lit vert
du reptilien.
C'est l'interprétation du reptilien. D'accord, très bien.
Donc, en passant du quatrain au tercé, nous avons un changement d'espace. En effet, nous ne sommes plus dans l'espace onirique, mais nous passons dans un espace réel. Donc, comme le témoigne le changement de forme entre le quatrain et le tercé, donc qui montre un changement d'espace. Donc ici, nous avons un retour sur Terre. Après le rêve, qui est métaphorisé par l'expression les pieds dans les glaïeuls, qui nous fait bien référence à l'expression les pieds sur terre, donc nous ne sommes plus dans la tête dans les nuages dans le rêve, mais bien les pieds sur terre. Et on voit bien que l'action, donc il dort, nous montre bien qu'on est dans un regard extérieur et qu'on le regarde dormir, et donc on est dans la laverie et non plus dans le rêve. Le vers suivant, souriant comme sourirait un enfant malade, est peut-être le nœud gordien du poème.
Ah là là, excellent. Là, votre analyse, j'ai adoré, monsieur Fibien, votre analyse de cet enfant malade. Hein. C'est là qu'on sent toute la pertinence et toute votre érudition. Vous aviez déjà localisé donc une référence à Cézanne, hein, avec la montagne Sainte-Victoire. À Molière également, avec cette arrivée de un peu tardive du joueur de foot. Et là, un autre poème, vous faites référence à un autre poème avec cette expression d'enfant, un autre poète, pardon, avec cette expression d'enfant malade. Les poètes, section d'assaut, donc poètes des années 2000, hein, et 2000 et plus, qui s'expriment sous forme de rap et qui eux aussi parlent de laver leur linge et aussi d'enfants malades.
T'es une grande sœur, mais pour eux t'es une mère. T'as quitté l'école tôt pour finir intérimaire. L'habitude de laver tous les vêtements de tes frères. Toutes les dépenses de la maison toujours à tes frais.
Le plus dur dans cette affaire, c'est pas mes problèmes d'adulte, mais c'est les rôles qui s'inversent. Je suis le père de mon père, j'ai du mal à m'y faire. Je suis dans des problèmes d'adulte sous une navette qui me noie de problèmes.
Enfant, avec des problèmes d'adulte, un enfant, à qui on promet la lune. Un enfant, avec des problèmes d'adulte, un enfant innocent, vivant, avec des problèmes d'adulte.
Un enfant, un enfant.
Magnifique poète que section d'assaut, hein. Leur chanson, on dirait, s'inspire directement de films Disney avec toute cette mièvrerie et cette absence absolue de second degré. Mais bon, c'est quand même à eux que fait référence, hein. Et d'ailleurs, encore une fois, dans une vision futuriste, que Rimbaud fait référence à ces poètes que sont section d'assaut. Donc, d'où l'enfant malade, hein, l'explication de cette expression de l'enfant malade qui dort. Et si je peux me permettre, je ne vous ai point coupé tout à l'heure parce que vous étiez énervé que je vous coupe sans cesse, mais là, j'en profite d'avoir la parole pour revenir sur votre interprétation du rêve de ce laveur du dorme. Hein, vous nous avez dit qu'il rêvait, etc., etc. Très bien, mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rêve? Quelle est votre interprétation de ce rêve?
Bon, alors, je tiens déjà à vous dire que je suis totalement contre l'interprétation des rêves, qui est pour moi quelque chose qui est réservé à vraiment à plus basse condition de l'intellectualisme. Et donc, interpréter les rêves, c'est un peu comme utiliser des parapluies, c'est complètement idiot.
Pour moi, utiliser des parapluies.
Oui, l'interprétation du rêve, c'est un résidu de freudisme frelaté qui me fait froid dans les frissons.
Excellent, avec cette allitération en le freudisme frelaté du rêve. Ça me convainc tout à fait, monsieur Fibien. Et vous pouvez donc continuer sur cet enfant malade.
Oui, donc le gordien de ce poème, donc, qui réside dans cette comparaison, souriant comme sourirait un enfant malade. Alors, l'erreur générale vient du fait que on a tendance à croire que le processus de comparaison porte sur l'adjectif malade. Donc, il serait comme malade, et donc pas vraiment malade, mais mort. Mm-hmm. Alors qu'en fait, la comparaison ne porte pas sur l'adjectif malade, mais porte sur l'enfant. Il est vraiment malade, mais il est comme un enfant.
Oh, mais oui, bien sûr. Lorsque vous le dites, ça s'éclaire tout de suite, on comprend. Donc, il n'est pas malade comme mort, il est malade comme un enfant.
Voilà, mais il est malade, il n'est pas mort. Donc le joueur de foot est malade, d'ailleurs, comme le confirme la suite du texte. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Il a froid, eh bien, parce qu'il est enrhumé, il est malade. Le poète donc semble convoquer la nature pour qu'elle le guérisse en le berçant. Donc ça, c'est déjà une première interprétation qui semble coller. Mais une autre trouve tout son sens quand on sait qu'en 1870, les yaourts nature étaient utilisés pour soigner le rhume. Alors finalement, on peut voir qu'ici, Arthur Rimbaud incite le joueur de football à manger un yaourt nature afin de se soigner de son rhume.
Oh, et remède révolutionnaire.
Oui, remède révolutionnaire qui trouve d'ailleurs toujours ses sources aujourd'hui avec les yaourts au bifidus actif.
Exactement, oui, cette croyance du soin par le yaourt n'a pas disparu de notre imaginaire occidental. Merci de le rappeler, monsieur Fibien.
C'est un plaisir. Et donc, encore un autre indice de sa maladie, le tercet suivant.
Là, vous nous convainquez vraiment, on sait qu'il est malade. Hein,
et les parfums ne font pas frissonner sa narine. Alors pourquoi? Non pas parce qu'il est mort, comme on a tendance à le croire, mais bien parce qu'il est enrhumé, il a les bouchées, et donc il ne peut pas sentir ce qui l'entoure. Ça coule de source. Mais malgré sa maladie, le texte semble nous rappeler que le joueur de foot reste quand même consciencieux. En effet, la suite, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Ainsi même, en plein sommeil, il semble porter sa main sur son cœur comme le font les footballeurs lorsqu'ils chantent la Marseillaise.
Bien sûr.
Et donc, patriotisme footballistique qui le suit même dans ses rêves.
Et ça confirme ce que vous nous avez dit avant sur le maillot bleu. Hein. Oui. Là, il avait un maillot bleu, il a la main sur le cœur comme pour la Marseillaise. C'est sans doute un footballeur de bas niveau, comme nous l'avons dit, puisqu'il... Il nettoie lui-même ses maillots, mais quand même, qui est intéressé par le football français d'échelle nationale?
Tout à fait. Et venons-en maintenant à la fin du poème, donc qui a fait couler tant d'encre et qui a suscité malheureusement tant d'erreurs interprétatives. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Alors, ce ne sont pas de simples trous de balles de fusil ou de pistolet, comme le pense la Vulgate, mais c'est bien entendu une image. En effet, le joueur de foot, lors de son match, semble avoir reçu un carton rouge.
Ah, d'où la couleur rouge.
Et oui, cela lui transperce le cœur. Donc ces trous sont à la fois rouges pour le carton rouge, mais aussi c'est le trou de rouge de colère et rouge de honte d'avoir perdu et d'avoir reçu un carton rouge.
D'où le double trou.
Voilà.
Oh, mais c'est absolument brillant. Donc si je résume bien, un joueur de foot expulsé d'un match qu'il perd par la suite se retrouve complètement... malade, enrhumé, fatigué dans une laverie où il assiste à la lutte entre son maillot de futsal et la lessive. Et ce serait peut-être une forme de revanche, non?
Oui, alors on se demandait peut-être au début pourquoi il avait l'air si affaibli seulement un match de foot. Eh bien, s'il est affaibli, ce n'est donc, comme vous l'avez dit, pas seulement par la maladie, mais aussi à cause de cette déception de s'être pris un carton rouge et d'avoir perdu son match. Mais le poème alors semble faire office de revanche. En effet, la victoire de la lessive au début du texte fait pendant à cette défaite sportive. La première, nous avons affaire ici à une première revanche dans la victoire de la lessive. Mais on peut distinguer une autre revanche lorsqu'on s'intéresse de plus près à la forme du poème et aux capacités visionnaires de Rimbaud. Mmh. En effet, regardons la forme du poème. C'est un tercet, donc qui se termine par trois vers. Puis rien, la fin du texte, donc le néant, le blanc. Donc 3 vers puis 0, donc 3-0. Et ce 3-0 semble faire référence à la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, à la finale de la Coupe du Monde de football en 1998.
Oh là là, mais c'est magnifique ce que vous nous expliquez, mais n'est-ce pas un peu faible, hein, juste...
Mais justement, ce n'est pas tout. En effet, nous avons donné une interprétation, donc pourquoi il a deux trous ? Pourquoi rouge au côté droit ? Mais nous avons une autre interprétation. Là, relisons de plus près le dernier vers. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Donc, il a deux trous rouges. A deux trous. Donc, A deux trous. A deux trous, 1, 2, 3.
A deux trous.
1, 2, 3.
Oui, exactement. Au niveau des sonorités, on l'entend très bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suivi du vide, la fin du poème. Le 0. 3, 0. Est-ce que c'est à dire que Rimbaud avait entrevu la victoire de l'équipe de France 3-0?
Bien sûr, il l'a même vu dans ses visions.
Dans ses illuminations.
D'ailleurs, ce n'est encore pas tout, car nous pouvons voir que le rythme ternaire, donc de ce 1-2-3, donc qui rappelle cette victoire de 1998, est présent dans tout le texte, comme nous pouvons le voir au début de la deuxième strophe. Bouche ouverte, tête nue. Nous avons donc bouche ouverte, tête nue. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0.
Oh là là, mais c'est brillant, monsieur Fibien. Absolument brillant.
Et nous avons donc ici une revanche par anticipation de cette victoire de 1998.
C'est-à-dire
qui semble vraiment hanter tout le texte par ce rythme ternaire.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, ce que Rimbaud voudrait peut-être dire, si je comprends bien, confirmer, c'est que ce joueur humilié par son carton rouge dans son match de district a finalement son honneur lavé par la victoire de son équipe nationale en 1998.
C'est tout à fait ça.
Mais c'est magnifique.
Eh bien, son honneur lavé, bien sûr, car nous avons aussi la référence à la laverie. Donc, tout s'entremêle.
Oh là 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 là.
C'est bien la richesse du poète.
La folie totale. La folie. Oh, mais je deviens fou à Montaigne Oisetail. Et voilà. On fait péter. là là, que de beaux instants nous fait revivre ce poème d'Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val, me suffit bien. Merci pour cette interprétation ô combien lumineuse, ô combien éclairante.
Eh bien, peut-être que pour la rendre encore plus éclairante, je vais peut-être proposer une petite conclusion, histoire de remettre les choses un peu en ordre et conclure sur des mots pleins de sagesse, t'imagines ?
Sans doute, nous n'en doutons pas.
Donc ce poème, comme nous l'avons vu, est tout autre de ce que l'on le croit habituellement. En effet, on a l'habitude de le voir comme une sorte de dénonciation de la guerre en ce contexte de guerre de 1870 qui, rappelons-le, oppose la France du Second Empire à la Prusse. Et donc l'originalité du poème résiderait dans une sorte de procédé de chute donc assez convenu. Mais c'est une grossière erreur. En effet, ce poème met en fait en scène un personnage effondré, accablé par la fatigue, le rhume et la honte de la défaite. Mais dans cette atmosphère décrépite, le poète s'élève, nous élève et élève le laveur du drôme. Malgré la défaite empirique du joueur, tout le poème semble rayonner d'une lueur victorieuse. En effet, la lessive l'emporte sur les tâches. La victoire future de la France en 1998 l'emporte sur la défaite présente du laveur. Donc la poésie ici est revanche, étoile dans la plus noire des cieux, victoire face à toute défaite. Arthur Rimbaud nous offre ainsi une définition métatextuelle de la poésie qui est à la fois évasion et donc élévation, et qui est aussi porteuse d'un véritable pouvoir visionnaire. L'histoire de l'erreur de l'interprétative du poème, enfin, nous dévoile le danger d'une méconnaissance du poète, d'une méconnaissance des particularités de l'auteur, et d'une trop grande importance accordée à un contexte historique qui nous amène parfois, nous les commentateurs, à dire tout et n'importe quoi sur un texte, et nous empêchons ainsi le lecteur lambda de se rendre compte que le dormeur du Val est en fait un footballeur, le laveur du Drôme.
C'était absolument magnifique cette conclusion, me suffit bien. Cette ode à la poésie à laquelle vous vous êtes livré, hein. On comprend pourquoi vos livres font tant date et pourquoi vous êtes si reconnu dans le monde universitaire après de telles interprétations. Donc, pour nos auditeurs, hein, je suis au regret d'annoncer que cette émission touche à sa fin. Vous pouvez aller acheter le livre de Bertrand Fibien, Rimbaud Gabonito, aux presses universitaires de Fès, 45 € pour 45 pages, ce qui est une somme tout à fait modique, nous pouvons l'affirmer. Ruez-vous dans les librairies, hein, dans les bureaux de tabac, dans les bureaux de poste, partout où ce livre sera présent, dans les gares, etc. Et donc voilà, je vous fais un gros bisou à tous, chers auditeurs. Que la sagesse de Bertrand Fibien vous accompagne tout au long de votre vie. Que la poésie d'Arthur Rimbaud vous guide dans chacun de vos pas. Bonne journée à tous et à plus sur Montaigne Oise Tug. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster les émissions sur le blog et aller suivre l'actualité des Tugs sur le Facebook. Bisous, à plus dans le bus.
J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes. Entre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante, je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des crétés, que mon pourri serait ainsi. Jamais rien n'y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorti en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant les clips. Je sens coulée de sauvetage, je nage dans l'immensité de la life. Me prendre c'est juste au message que j'oublie pas de sonner mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez silo sur le champ de bataille. Donc les mythos et leurs plans de bâtard. Moi aussi, Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts. Dans les normes, on rentre pas dans les normes.
chaque carton. J'ai marathon, passe à l'action. Bout de cœur en bouc et fausse déclaration. Émanation de choses irréelles. Bam, arrivé sans comme une déflagration. Jeune vagabonde qui quand la masse à fond fuit. Ami de chaque passion. Aux couleurs j'écris à la bombe. Mes rêves sur les murs cris de la nation.